Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir et un privilège. Ce sont des mots d'usage. Mais pour moi, il s'agit vraiment de l'aboutissement de quelque chose que j'envisage, que je souhaite depuis pas mal d'années. Vers 2002, j'étais intervenant dans un rassemblement des jeunes des églises évangéliques arméniennes du côté de Valence. Et un ami qui est enseignant, et qui était l'un des animateurs lors de cet événement, connaissant un petit peu ma façon de réfléchir, m'avait invité avait réservé une table pour tous les enseignants qui étaient dans ce rassemblement. Et je me souviens de la réaction de plusieurs d'entre eux quand j'ai dit, voilà, dans plein de pays, il existe des réseaux ou des structures qui équipent, qui aident, qui soutiennent les enseignants chrétiens. Et la réaction de plusieurs de ses amis enseignants a été « Ah mais moi ça ne me concerne pas parce que j'enseigne dans le public. » Donc, évidemment, il n'y a aucun lien entre ma foi et mon travail et mon activité professionnelle. Et donc, nous avons passé le repas à réfléchir, est-ce que vraiment il n'y aurait pas moyen d'avancer un peu plus au-delà de ce premier constat. Lorsque j'ai vu passer un petit email comme quoi les réseaux professionnels se mettaient en place, j'ai eu le tort, la malchance, appelez ça comme vous voulez, de mettre en bas, je suis particulièrement intéressé par le réseau des enseignants chrétiens, étant donné que c'était ma formation première. Et je crois que c'est tombé entre les mains de Jérémy, certainement, et voilà. Et me voici devant vous ce matin. J'étais GBUcien de 82 à 90 et j'ai été sire du sud-est de 90 à 93, simplement pour vous donner mon accréditation GBUcienne. Je suis actuellement père d'un GBUcien tout nouveau. Il a commencé ses études d'infirmier au Mans. Emmanuel, il s'appelle, et il est actif au GBU du Mans. D'ailleurs, le GBU du Mans investit notre maison en Bretagne le week-end prochain pour leur week-end du premier trimestre. Pour terminer brièvement la présentation de qui je suis, pourquoi je suis devant vous, je pense. Donc, je me suis formé en lettres et en langues à Avignon. C'est à l'époque qu'on appelait ça une maîtrise. Donc, une première maîtrise en lettres et en langues civilisation britannique, langue anglaise à l'Université d'Avignon. Et ensuite, je suis allé à l'étranger. Je suis allé au Pakistan où j'ai enseigné l'anglais aux réfugiés de la guerre entre les Afghans et les Russes. C'était les années 80, souvenons-nous-en. Et à la suite de cela, je suis rentré en Europe et j'ai poursuivi une autre maîtrise à l'université de Cardiff au Pays de Galles en sciences de l'éducation avec deux axes principaux. On pouvait aménager les études qu'on faisait à l'époque de manière très souple. Donc mon axe premier, c'était l'enseignement des langues aux adultes. Et mon deuxième axe, c'était la mise en forme des programmes d'enseignement dans les pays en voie de développement, notamment pour tout ce qui était des écoles d'idéologie minoritaire, c'est-à-dire, par exemple, et c'était mon objectif, servir les écoles pour enfants de missionnaires chrétiens dans des pays islamiques, par exemple. Et donc, les considérations culturelles et religieuses ont fait partie de ce que j'envisageais, de ce que je travaillais à l'époque. Donc le pluralisme culturel et religieux à l'école a figuré très fortement dans les travaux que je menais à l'époque. Et évidemment, cela m'a servi depuis. En tant que responsable d'une association d'accompagnement des malades du sida, j'ai été appelé à être très idéologiquement minoritaire au niveau de ma foi, on va dire, dans un contexte où les présupposés majoritaires avaient droit de cité. J'étais évidemment confronté au milieu de l'hôpital, qui est un milieu où la laïcité est fortement appuyée. Et puis, j'ai aussi été militant FCPE pendant 13 ans, on va dire. Donc, j'ai beaucoup côtoyé les enseignants de mes enfants pendant cette période. Alors, ce matin, ce que j'envisage de réfléchir avec vous, d'aborder avec vous, ce sont des pistes de réflexion plutôt que des réponses. Vous êtes ici venu pour lancer un réseau, non pas pour écouter X, Y, Z, plus forte raison Jonathan Hanley, donner des réponses toutes faites. Nous allons réfléchir ensemble. Ben, c'est le but du lancement d'un réseau, c'est de commencer à se donner les moyens de répondre à des questions long terme. Ce réseau a pour vocation de rassembler, de travailler en partenariat les uns avec les autres, avec diverses institutions aussi, de manière évolutive, pour correspondre aux besoins qui vont changer selon le temps, selon les besoins spécifiques du moment et du contexte. Je vais donc m'intéresser davantage au domaine qui pose certainement problème, et tout à l'heure, j'aurai l'occasion de vous entendre un peu plus autour évoquer les problèmes auxquels vous avez pu faire face. En tout cas, je vais m'intéresser au domaine qui nous interroge en tant que chrétiens. Je ne peux pas couvrir tout en 2 fois 30 minutes, il y aura une pause entre les deux. Et vous trouverez aisément, je suis sûr, des domaines et des éléments que j'ai omis ou sur lesquels je suis passé trop vite et qui vous intéressent. C'est le but du temps de partage anti-groupe tout à l'heure et du temps d'échange en fin de matinée, toute fin de matinée. Et c'est le but du réseau lui-même, ce réseau que nous sommes en train de lancer ou qui vient d'être lancé. Le thème qui m'a été proposé ce matin, c'est pourquoi est-il important d'appliquer une pensée chrétienne à son métier. Je ne reprendrai pas toutes les bases de cette réflexion qui existe sous différentes formes, notamment une question suivante, coédition GBU Farel, qui s'intitule « Le travail, malédiction ou valeur chrétienne » de Daniel Wittmann. Donc, vous avez là-dedans des éléments que j'ai relus avant de me lancer dans ma préparation de ce que j'avais à vous apporter ce matin. J'aimerais aussi vous parler d'un autre livre qui a été publié par nos amis québécois, mais qui était facilement disponible en France, je le pense encore, certainement chez Exelsis, le distributeur Exelsis. « La trame de ce monde, vocation, choix de carrière et finalité du travail humain ». Donc, c'est une étude facile d'accès, mais néanmoins profonde, et qui va très très loin dans toutes ces considérations, la foi et le travail, où sont les interactions, quels sont les enjeux d'une réflexion dans ce domaine. Je vous le recommande vivement aussi. Vous avez en gros la trame de ce que j'ai à dire derrière. Cette trame, je l'ai préparée rapidement dans le train ce matin, en me disant que ce serait bien qu'ils puissent suivre un petit peu mieux. Ça les aidera à suivre. Je ne suis pas un féru du PowerPoint. J'aurais pu m'y atteler, mais généralement, jusqu'à présent, c'est mon fils qui fait ça. Et lui, il te ment en ce moment. Donc, nous vivons dans un monde créé. C'est la première des réponses que je donnerai à cette question. Pourquoi est-il important d'appliquer une pensée chrétienne à son métier ? Nous vivons dans un monde créé. Cela correspond aussi à une question suivante. Vivre dans un monde créé par Lydia Jäger. Nous travaillons tous avec des présupposés. C'est-à-dire des éléments, des arguments qui font de notre façon de voir le monde. Dire « je le vaux bien », c'est un présupposé. La valeur humaine, le mérite, la consommation. Lorsque nous réfléchissons en tant que chrétiens, nous réfléchissons toujours avec des présupposés. Quels sont les présupposés qui nous permettent d'affirmer que nous vivons dans un monde créé? Le premier, c'est tout simplement que Dieu est extérieur à nous. Si nous vivons dans un monde créé, nous ne sommes pas l'auteur du contexte dans lequel nous vivons. Il y a donc Dieu qui est extérieur à nous, qui nous a conçus, qui nous a créés, et donc qui sait comment nous fonctionnons de manière optimale. Un autre présupposé, alors donc nous faisons bien, vu que c'est lui qui nous a conçus, c'est lui qui nous a programmé, c'est lui qui nous a créé, qui nous a mis en forme, qui nous a donné la vie. Nous faisons bien de faire attention à ce qu'il dit de nous, à ce qu'il donne comme instruction. C'est une des bases de l'écoute chrétienne de la parole de Dieu, du Saint-Esprit. cette autorité divine que le chrétien, la chrétienne accepte dans sa vie vient du fait que notre Créateur sait mieux que nous-mêmes comment nous sommes faits et ce dont nous avons besoin. C'est un présupposé. Un autre présupposé important, c'est que nous vivons dans un système ouvert. Je ne vais pas faire beaucoup de philosophie ce matin, mais donc le philosophe qui m'a aidé à mettre en forme cette idée, c'est Francis Schaeffer dans ce petit livre très facile à lire, Démission de la raison, là encore très, très accessible. Francis Schaeffer, philosophe réformé, de tendance fortement évangélique, Démission de la raison. C'est là-dedans que je trouve le plus clairement. C'est l'idée que nous vivons dans un système ouvert, c'est-à-dire que la réalité telle que nous la percevons, le système du réel dans lequel nous vivons, n'est pas la totalité. Il y a un extérieur, il y a un ailleurs. La plupart de nos contemporains, et c'est la thèse de Schaeffer dans Démission de la raison, vivent encore aujourd'hui, peut-être moins que dans les années 70 où ce livre est sorti, mais encore beaucoup aujourd'hui, vivent avec l'idée que le matériel, le perceptible, c'est la totalité de ce qui existe. Or, en tant que chrétiens, nous acceptons qu'il y a une autre dimension, dimension spirituelle, ce que les philosophes des siècles passés ont appelé le domaine de la grâce, par exemple, par rapport au domaine de la nature. L'ensemble de la réalité n'est pas contenu dans ce que nous pouvons en percevoir, dans ce que nous pouvons définir. Nous ne pouvons pas définir et décider de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est réel. C'est de l'extérieur que cela vient. Beaucoup de nos contemporains pensent donc que nous vivons dans un système clos. Et pour eux, le monde matériel, la perception qu'en ont les humains, représente la totalité de la réalité. C'est de là que vient cette idée qu'on entend très souvent quand on échange à propos de la foi. « Ah oui, la foi, oui, oui, mais pour moi, Dieu sait. » Vous avez entendu certainement ce genre de « Pour moi, Dieu sait ceci ou cela, ou c'est une force de la nature, ou c'est une puissance qui nous aime. » C'est prendre l'esprit, c'est produire une conception de Dieu de l'intérieur de l'esprit humain. Or, l'enseignement biblique, c'est ce qui compte. C'est pas ce que nous pensons de Dieu, c'est pas « pour moi, Dieu sait », mais « pour Dieu, qui suis-je ?» C'est notre relation avec Dieu qui définit l'humain. Dans le système ouvert créé par Dieu, il peut intervenir. Je me souviens, en fac de théologie, le prof représentait ça comme une sorte de bulle. Hein, une sorte de boule de, vous savez, les boules en verre là, avec la neige dedans, on les retourne, et puis ça, voilà, un peu comme ça. Voilà, c'est le réel. Et pour nos contemporains, ou pour la façon, en tout cas matérialiste, de voir le monde, tout ce qui est à l'intérieur de ce système clos, c'est défini le réel. Or, le chrétien accepte que cette boule n'est pas fermée. Elle est ouverte. Elle permet à Dieu d'intervenir, de changer, s'il le faut, un instant, les règles de la physique. C'est ce qui arrive lorsque Dieu intervient de manière miraculeuse dans notre nature. Lorsque Jésus calme les eaux de la tempête, guérit le malade qui est affecté par des bactéries, il est en train de passer à travers, de rentrer dans ce monde du réel et de le changer. Et évidemment, nous sommes destinés, c'est le message de la rédemption, du salut en Jésus, nous sommes destinés à une éternité auprès de Dieu. Donc ce monde clos, cette réalité fermée, n'est pas l'étendue absolue de notre horizon. Nous avons espoir, espérance en un ailleurs. La plus grande interaction entre notre système ouvert et l'extérieur, Dieu, est la révélation. C'est-à-dire l'Écriture révélée, le Christ, la compréhension qui nous est donnée de Dieu par le Saint-Esprit. La révélation, c'est Dieu qui se montre à nous et qui se laisse comprendre, pas entièrement, mais suffisamment. La révélation comprend l'historique de la chute et de la rédemption, avec des conséquences pour tous les domaines de l'existence humaine. La connaissance, la façon dont nous abordons ce que nous pouvons savoir et ce que nous ne pouvons pas savoir, évidemment, là-dedans, on met la science. La mort, les relations humaines, la nature, l'art, le travail. Toutes ces choses ont leur place dans cette révélation qui fonde la foi du chrétien. Quelles sont donc les affirmations de ce que je viens de vous dire pour le travail ? J'ai déjà dit ce que le Créateur en dit compte pour le croyant. Si nous trouvons que Dieu s'est exprimé à propos du travail, parce qu'il est notre Créateur, qu'il sait au mieux comment nous fonctionnons, ou il sait comment nous fonctionnons au mieux, eh bien ce qu'il va dire du travail va compter pour nous. Nous allons donc vouloir explorer son avis sur la question. Presque, je n'ai pas besoin de le dire. Si vous êtes là ce matin, c'est parce que vous êtes déjà convaincu. Nous ne sommes pas la référence ou l'autorité ultime sur la question. L'être humain ne définit pas le travail entièrement, absolument. Le fait de ne pas être la référence ou l'autorité ultime sur une question nous affranchit de notre seul ressenti, de notre seul vécu, et intègre le travail dans une image beaucoup plus grande que nous. Beaucoup plus grande que nos réalisations ou nos échecs. C'est-à-dire que le travail ne représentera pas, pour le chrétien qui vit avec cette conception de la réalité comme un système ouvert, ouvert à l'éternité, ouvert à Dieu, au Créateur, eh bien le travail n'aura pas le même sens que pour quelqu'un qui ne voit la vie que comme un système clos, qui se limite à ses 70 à 90 ans sur Terre, à ses réalisations ou ses échecs. C'est pour la raison pour laquelle, par exemple, certains accepteront une vocation à satisfaction différée. C'est la raison pour laquelle je pense à une femme qui m'a énormément inspiré quand j'avais 17 ans, 18 ans. J'étais un ado pas très aimable, je pense, assez imbu de moi-même. Et cette femme s'appelait Gerda Wagner. Elle était lingère dans un centre missionnaire où j'allais passer mes étés pour essayer de perfectionner ma pratique de l'allemand en vue de mon bac. Et Gerda Wagner, elle a passé sa vie à faire le linge de toute une grande communauté missionnaire. Elle était parmi les personnes les plus satisfaites, les plus apaisées que j'ai jamais rencontrées. Et puis, ce qui me touchait particulièrement, c'est que lorsqu'elle me rendait mon linge, il y avait une tablette de chocolat ou quelques bananes qui étaient glissées dans mon linge. Et en fait, elle savait aimer même les gens pas un peu difficiles à aimer, certainement. Et elle m'a toujours inspiré comme quelqu'un qui a su trouver une énorme satisfaction, un énorme sens dans une vocation qui était certainement, en termes humains, en termes immédiats, à satisfaction différée. Sa valeur, elle le trouvait dans ses valeurs chrétiennes et dans le fait que ce qu'elle faisait s'intégrait dans une éternité. C'est ce que Jésus enseigne dans Marc chapitre 10, lorsqu'il dit à Pierre, Pierre lui en dit, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Jésus répondit, « En vérité, je vous le dis, il n'est personne qui ait quitté à cause de moi et de l'Évangile maison, frère, sœur, mère, père, enfant ou terre, c'est-à-dire outil professionnel, et qui ne reçoive au centuple présentement dans ce temps-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers. » Et les derniers seront les premiers. Énormément de choses à nous dire à propos de nos valeurs du travail, ce texte. La référence, c'est Marc, chapitre 10, versets 28 à 31. Quel est donc l'avis du Créateur sur le travail ? Tout d'abord, le travail est antérieur à la chute. Quelles sont les implications d'une telle affirmation ? Le travail est antérieur à la chute. Quelles sont les implications de cette affirmation ? Tout d'abord, que le travail est bon. Nous savons que Dieu, il a regardé sa création avant la chute. Genèse 1, 31, « Dieu vit alors tout ce qu'il avait fait, et c'était bon, c'était beau, et son cœur s'en est réjoui. » Et le travail faisait déjà partie de la création. Si Dieu donc a voulu le travail mérite une réflexion chrétienne d'une manière très pointue. Le travail mérite une réflexion chrétienne dans le sens général ou théologique, mérite qu'une pensée chrétienne du travail soit formalisée, soit posée, soit définie. Il n'y en aura pas qu'une, il y aura différentes approches. Tous les commentateurs, tous les psychologues, les philosophes, les théologiens ne seront pas toujours d'accord sur tous les contours, tous les détails non plus d'une définition chrétienne du travail. Mais nous devons nous forger une vision chrétienne, théologique, générale du travail. Et pour le chrétien individuel, nous devons réfléchir et nous former une vision personnelle du travail. Le travail que nous faisons, la raison pour laquelle nous nous levons lorsque le réveil sonne le matin et que nous prenons la voiture, le vélo, le métro, les guiboles et puis que nous allons au travail. En tant que chrétiens, nous avons besoin de formaliser, je dirais, notre vision du travail dans le cadre de notre piété individuelle. Pas tout le monde, tout le temps. On ne se prend pas la tête tous les jours avec ce genre de questions. Mais il faut savoir pourquoi nous faisons ce que nous faisons en tant que chrétiens aussi. Dans le cadre de notre piété individuelle, le jour viendra où vous aurez à choisir entre un conseil de classe et une réunion de l'église. Pourquoi vous choisirez l'un plutôt que l'autre? Je n'ai pas dit lequel vous allez choisir. Mais pourquoi vous choisirez l'un plutôt que l'autre? Eh bien, c'est l'enjeu un petit peu de votre réflexion personnelle, individuelle, de cet équilibre, piété personnelle, monde du travail, priorité professionnelle, etc. Ensuite, une autre implication de cette affirmation, c'est que le travail contribue à notre bonheur. Les conditions avant la chute étaient optimales au bonheur humain, donc le travail fait partie de cet ensemble qui contribue au bonheur de l'être humain. Et alors, j'ai un petit dé que je n'ai pas mis sur vos notes. Est-ce que nous travaillerons sur la nouvelle terre? Lorsque, au final de l'histoire telle que nous la connaissons, Dieu va renouveler la terre. Le travail fera-t-il partie? Beaucoup le croient. La question reste ouverte. Le travail fait partie de la rédemption, c'est-à-dire de la vie chrétienne. C'est aussi un des avis du Créateur sur le travail. Vous avez certainement déjà entendu cette phrase, « Si Jésus n'est pas Seigneur de tout, il n'est pas Seigneur du tout. » Donc, il faut que Jésus soit le Seigneur de notre travail aussi. Le travail n'est pas le hors Jésus, du lundi au vendredi, samedi matin, selon les circonstances. Avec le dimanche, et puis un petit quart d'heure tous les matins avant de prendre le bus. Pour Dieu, Jésus, il est Seigneur de tout, du lundi au vendredi. Pourquoi? Parce que la foi chrétienne est systématique. Tous les aspects de la vie sont concernés. La foi chrétienne est systématique. Tous les aspects de la vie sont concernés, y compris le travail. Il n'y a pas de clivage entre le sacré et le séculier. Nous affirmons avec ce point un élément important de notre héritage réformé. C'est avec la réforme que cette abolition, on va dire, du clivage entre le sacré et le séculier a été mis en forme par les théologiens. Il n'y a pas de conflit entre la vérité religieuse et la vérité scientifique. Je me souviens, j'étais animateur du groupe de jeunes il y a quelques années, et une jeune fille du groupe de jeunes qui se trouve être ma filleule, qui n'a pas eu un parcours scolaire particulièrement brillant, et l'école a été toujours très, très, très pénible et douloureux pour elle. Et je me souviens un jour, elle dit: ah oui, mais de toute façon, à SVT, on n'en a pas besoin, nous, on est chrétiens. il y avait une sorte de plein de raccourcis vraiment néfastes. Alors moi, j'ai hurlé, pas vraiment, mais je fais ça gentiment. Plein de raccourcis. on est chrétien, donc on n'a pas besoin de la science. Mais c'est quoi comme attitude, ça? Comment? Ça venait pas d'elle. Ça venait pas d'elle. Ça venait de choses qu'elle avait entendues, de mauvais présupposés qu'elle avait entendus dans les milieux où elle avait été. Il n'y a pas de conflit entre la vérité religieuse et la vérité scientifique. Une seule vérité, celle de Dieu. Je ne sais pas si le livre existe en français avec ce titre précis, mais j'ai un livre dans ma bibliothèque écrit en anglais. All truth is God's truth. Toute vérité est vérité divine. Toute vérité est vérité de Dieu. Si nous nous sentons obligés, par égard pour la foi, pour notre piété, d'occulter une part de vérité, fût-elle scientifique, philosophique, anthropologique, théologique, je ne sais, notre foi sera bancale. Toute vérité est vérité de Dieu. S'il y a un conflit entre vérité avérée et ce que nous croyons au niveau de notre foi, eh bien c'est qu'il y a un ajustement à faire quelque part. Le conflit n'est pas réel, sinon notre foi tombe. C'est pas qu'elle est bancale, c'est qu'elle tombe, notre foi. Soit nous avons une mauvaise vision de la foi, soit la science va progresser, va changer, va se rendre compte, va réajuster son tir. Ce sera l'un des deux. Mais toute vérité est vérité divine. Il n'y a aucun conflit entre les deux. La foi chrétienne, et je dis est systématique, la foi chrétienne est raisonnable. Même si elle n'est pas rationnelle, elle est raisonnable. Le faisceau des indices mène à une conclusion cohérente qui fonde notre foi chrétienne. Notre foi chrétienne, création, chute, révélation, rédemption, Jésus, Église. Notre foi est fondée sur un raisonnement intelligent. La seigneurie du Christ dans la vie professionnelle aussi est raisonnable. La foi chrétienne est un fondement pour construire et cadrer notre vie. L'obéissance chrétienne, la confiance en l'amour de Dieu, la mission, la piété, les mises en application des valeurs chrétiennes, y compris sur votre lieu de travail. Et certaines professions ont évidemment des enjeux professionnels, spirituels et professionnels plus compliqués que d'autres. Mais tout cela, tous ces éléments s'assemblent lorsque l'on les soumet à une réflexion chrétienne sous l'autorité de la parole de Dieu. Tous ces éléments s'assemblent en un tout cohérent, vrai, beau et bénéfique. C'est pour notre bonheur. Sur le fondement de la confiance en Dieu, nous nous constituons ainsi une foi vigoureuse, qui est résistante au jour de l'orage, solidement charpentée. Au fil des pages de l'Écriture, nous voyons ainsi Dieu qui dignifie le travail. Le travail est dignifié par Dieu dans ses rapports avec son peuple. Dans l'Ancien Testament, la loi mosaïque, les écrits prophétiques fixent une certaine valeur au travail, fixent, réglementent ce qu'on peut faire à l'égard d'un serviteur ou d'un esclave et ce qu'on ne peut pas faire. Alors, pour notre référentiel contemporain 21e siècle, certaines de ces règles nous paraissent presque abominables, utilisons le terme. Mais j'ai souvent entendu dire, c'était déjà un énorme pas en avant qu'il y ait une sorte de réglementation, une dignité du travail. Après, il y a beaucoup d'autres éléments d'herméneutique qu'il nous faudrait prendre en compte avant d'interpréter ces textes. Mais Exode 21 est un des textes qui fixe la règle mosaïque concernant le travail. Jérémie 22 est aussi un texte de l'Ancien Testament qui parle du travail. Et ces textes introduisent une notion très importante pour le domaine du travail, qui est la justice du travail. En parallèle avec la justice sociale, ou en composante de la justice sociale, bibliquement, est la justice du travail, qui est une composante très forte de l'engagement historique chrétien, biblique, dans les revendications sociales, les syndicats, etc. En France, la seconde moitié du XXe siècle, c'est vrai que le syndicalisme a pris pas mal de distance par rapport à la foi chrétienne. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et des chrétiens ont été historiquement au front de ce genre de combat pour la justice du travail. Le travail est dans la Bible lié à une notion de bénédiction-malédiction, c'est clair. Mais non pas que la malédiction soit de travailler, attention. Non pas que la malédiction soit de travailler et que la bénédiction soit de bénéficier de temps de loisir. Ce n'est pas du tout cela qu'enseigne la Bible. La bénédiction divine est exprimée par le fait que le travailleur doit pouvoir bénéficier des fruits de son travail. Et là, nous en venons, vous avez certainement entendu parler de l'éthique protestante du travail, dont les sociologues, y compris Max Weber, ont beaucoup parlé. Bénéficier des fruits de son travail. La malédiction consiste, et là vous le retrouverez à maintes occasions dans la parole, surtout dans l'Ancien Testament, la malédiction consiste en ce qu'un autre profite des fruits de ton travail. Proverbe chapitre 31, la femme de valeur, elle pense à un champ, c'est-à-dire elle réfléchit, elle envisage, elle cogite, et puis elle achète du fruit de son travail. Elle investit, elle plante une vigne. Du fruit de son travail, elle va plus loin, elle plante une vigne. Donnez-lui donc le fruit de son travail. Qu'on dise ses louanges aux portes de la ville pour tout ce qu'elle fait. Pas seulement le fruit du travail en termes de davantage de bénéfices d'aliments, de récompenses matérielles, mais aussi en termes de réputation. J'ai une amie qui vient d'écrire un livre. Et son livre va bientôt sortir. Et elle était complexée. Enfin, je la voyais bien. Ah, ben, je sais pas, je vais écrire sous un pseudonyme parce que ça se fait pas de se mettre en avant. Je suis chrétienne après tout. Je dis, écoute, le Seigneur t'a donné des talents. Tu as travaillé comme une dingue pour arriver au point où tu en es. Le livre est sur le point d'aboutir. Profite. Mets ton vrai nom à ce livre. N'aie pas peur de dire aux gens que tu as écrit un livre. Allez, je sais que tu n'es pas crâneuse. Je sais que tu ne vas pas passer ton temps à t'en vanter. Profite, apprécie, y compris dans ce que Dieu t'a, les dons que Dieu t'a donnés. Tu as bien fait un long travail. C'est Dieu qui t'a permis de le faire. Rends-lui gloire en appréciant aussi dans ton plaisir ce que tu es en train de vivre. Et si ça te fait une petite réputation, eh bien voilà, c'est bien aussi. Il n'y a rien de non-chrétien à cela. Le travail est inclus dans la rédemption. Quelles sont les implications de cette affirmation? On en est là. Dieu est à l'œuvre dans notre contexte professionnel et non pas en dépit de celui-ci. Alors, j'ai eu un parcours professionnel un petit peu chaotique, vous l'avez compris, j'ai vadrouillé un petit peu. Je suis actuellement à cheval sur une sorte de travail chrétien plein temps qui comprend des choses comme ce que je fais aujourd'hui, écrire des livres. Et j'ai aussi une activité professionnelle de traduction et d'interprétariat où je suis en lien avec des structures qui ne sont pas du tout chrétiennes, où j'ai des échéances, j'ai des attentes de rendement, de résultats, de qualité. Je vis aussi cet aspect-là de la vie professionnelle. Et il arrive, et ça vous est certainement déjà arrivé, sinon ça vous arrivera, je le sais, de me dire, Seigneur, si seulement ma situation était différente, si seulement j'avais plus de temps pour accomplir tous les projets. J'ai aidé le GBU en même temps que me lancer dans mon travail, j'y arrive pas, Seigneur, tu vois que j'ai pas assez de temps. Et je connais beaucoup de chrétiens, et je suis aussi passé par là, où nous passons notre temps à nous lamenter, comme si Dieu était généreux dans tous les domaines, sauf dans celui du temps. Comme si Dieu avait une générosité sans limite pour toutes sortes de choses, mais alors le temps, là, il nous en a donné que 24 heures. Il est chiche dans ce domaine-là. J'entends un peu ce discours. Il ne faut pas que je jette la pierre, parce que ça a aussi fait partie de mon discours. Et j'ai lu un livre d'un écrivain qui s'appelle Eugene Peterson. Si vous tombez sur des écrits de Eugene Peterson, allez-y. Eugene Peterson, qui est décrit souvent comme un pasteur de pasteurs et un poète. Alors, il a très très poète dans ce qu'il écrit. Et il a écrit un livre qui est un commentaire du livre de Jonas. Et il parle de Jonas dans le ventre du poisson. Il dit, un des plus beaux psaumes de la Bible, d'après ce qu'on comprend, a été composé dans les entrailles puantes d'un poisson. Alors, moi, je ne sais pas ce que vous auriez fait si vous étiez retrouvé vivant, vivante, dans le ventre d'un poisson. Mais moi, je n'aurais pas pensé à écrire un poème, encore moins un texte que dont j'allais me souvenir ou que le Saint-Esprit a rappelé à Jonas par la suite. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Et voilà, Jonas, il a composé un poème où il parle de sa relation avec Dieu. Et Peterson, dans ce commentaire, dit « Nous avons tous besoin d'un ventre de poisson. Nous avons tous besoin d'un moment de notre vie où nous nous rendons compte que notre contexte, aussi contraint qu'il puisse paraître, aussi limité par les obligations professionnelles, par les manques de moyens, par le manque de temps, est néanmoins un contexte où Dieu, lui, n'est pas limité. » Et ça m'a libéré, hein. Je vous avoue que ça m'a bien fait souffler dans plein de domaines de ma vie. C'est trop rapide pour vraiment vous faire comprendre ce que je cherche à dire, mais ce que Peterson disait, c'est la cabine d'un poids lourd, une salle de classe, une cuisine de cantine, un bureau avec un ordinateur, les fourneaux de la maison familiale, peu importe le ventre du poisson qui est le vôtre. Il est un lieu où Dieu travaille aussi, non pas en dépit de vos circonstances, mais avec et dans vos circonstances, si vous êtes prêt à le laisser faire. J'ai un ami chrétien engagé qui était chef d'orchestre. Vous en connaissez beaucoup, vous, des chefs d'orchestre symphoniques chrétiens. Vous en connaissez? Allez, est-ce que vous pouvez connaissez quelqu'un? Ouais. Ok, une personne a pu lever la main. Moi, je n'en connais pas beaucoup. Et il vivait dans un contexte d'église. Alors, il a reçu un appel du Seigneur. Qui suis-je pour contester? Mais il vivait dans un contexte d'église où ce genre d'activité professionnelle était bien, mais néanmoins pas aussi bien que si on est pasteur ou missionnaire. Et ben voilà, maintenant, il est missionnaire. Alors, c'est super, je suis sûr qu'il est un bon missionnaire. Mais je me souviens de nos conversations. Je dis, attends, est-ce que tu es vraiment sûr? Voilà, si j'avais perçu un peu moins de ce... Il y avait une sorte de manque d'égard à l'égard de sa première profession. Ah, ouais, mais c'est pas si bien que... Tu vois, toi, Jonathan, tu es un missionnaire. Attends. Si seulement je pouvais être chef d'orchestre. Non, c'est pas ce que je viens de dire. Et parfois, je pense que nous manquons de réflexion de mature dans ce genre de domaine. Est-ce que Dieu... Allez, il y en a pas mal de missionnaires dans le monde, hein, mais des chefs d'orchestre chrétiens, il n'y en a pas tant que ça. La profession, l'appel de la profession peut être autant une vocation que... Enfin, n'importe quel appel professionnel est une vocation. Tous les lieux dont j'ai parlé deviennent une sorte d'église, de lieu de louange quand le chrétien pratique sa profession avec Dieu et pour Dieu. Notre façon de vivre devient alors une louange pour le Seigneur. Nous travaillons et vivons coram Deo, disent les théologiens, sous le regard de Dieu, devant la face de Dieu. Psaume 139, nous n'avons pas le temps d'approfondir, mais psaume 139, vous savez ce psaume qui parle de Dieu nous voit, avant qu'une parole ne soit sur ma lèvre, déjà tu la connais Seigneur. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu, si vous avez déjà lu ce psaume lorsque vous êtes en rupture avec Dieu, lorsque vous êtes en train de cacher, d'essayer de cacher quelque chose à Dieu dans votre relation avec lui. Ben, ça fait peur. L'œil panoptique de Dieu, l'œil qui surveille tout, l'œil de juge. Par contre, lorsqu'on est à l'aise dans sa relation d'un enfant par rapport à son père, je me souviens quand notre premier fils était tout bébé, vous savez, les parents, on se penche sur le berceau, oh, qu'il est mignon, regarde, qu'il est beau, ah ouais. Alors, on passe des heures à faire ce genre de choses. Et puis, il ouvre les yeux, sort de son sommeil, et qu'est-ce qu'il voit à quelques centimètres de son visage? Le visage de maman et papa. Ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous regarde comme ça, que vous ouvrez les yeux après un profond sommeil, et là, vous avez un visage devant les yeux, c'est le genre de blague que les gens font en camp, en colo, un truc comme ça. En fait, non, quand le bébé, quand Mani ouvrait les yeux dans son berceau, la première chose, oh, c'était le sourire. Pourquoi? Parce qu'il était en entière confiance dans sa relation avec nous. L'œil panoptique de Dieu, l'œil de Dieu qui voit tout, qui surveille tout. Est-ce que vous êtes enfant en train de vous éveiller au regard de votre père? Ou est-ce que vous êtes coupable en train de vous éveiller au regard du juge? Ça dépend de la situation où on est. C'est le même psaume avec deux regards entièrement différents. Nous vivons et nous travaillons sous le regard de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, travailler sous le regard de Dieu? C'est une question que je vous laisse pour la réflexion et la discussion par la suite. La qualité de notre travail, la qualité de notre foi est aussi mesurable à la qualité de notre travail. Une avocate chrétienne, qui n'est pas une bonne avocate, ne serait pas une très bonne chrétienne. Un enseignant chrétien, qui n'était pas un bon enseignant, ne serait pas un très bon chrétien. En tout cas, son témoignage ne brillerait pas par son authenticité. Attention toutefois à la définition de bon. Merci. Vous l'attendiez celle-là, n'est-ce pas? Attention néanmoins à la définition de bon, qui ne correspondra pas forcément pour le chrétien aux mêmes critères de réussite, de rendement, de productivité. On pourrait en discuter longtemps. Le travail est une occasion de témoignage. Le travail est un des meilleurs points de contact entre chrétiens et non-chrétiens. Quand nous pensons à toutes ces personnes qui n'entreront jamais par les portes d'une église où c'est marqué église évangélique ou centre protestant ou je ne sais pas quoi d'autre, mais ils côtoient des chrétiens quotidiennement sur leur lieu de travail. Il est un contexte idéal pour tester l'authenticité de la personne en face et donc de tester l'authenticité du témoignage. Au travail, avec des collègues qu'on côtoie tous les jours, c'est plus difficile de dire quand ça ne correspond pas à la réalité du geste. Le travail est un contexte idéal pour montrer Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire montrer Dieu? Nous sommes à son image. Cela veut dire, être à l'image de Dieu, cela veut dire que si quelqu'un veut se renseigner sur comment Dieu il est, eh bien, il vient vous voir. Voilà à quoi Dieu ressemble. Voilà des caractéristiques chez cette personne, chez ce chrétien, cette chrétienne. Des caractéristiques. Je veux savoir comment Dieu il est, eh bien, je peux regarder sa vie. Ah, c'est comme ça que Dieu il est. C'est ça que ça veut dire être à l'image de Dieu. Alors, sur notre lieu de travail, quelles sont les implications d'une telle affirmation? Eh bien, comment Dieu il est? Il est fidèle et honnête, n'est-ce pas? Cela se reflétera dans notre éthique du travail. Dieu est intègre, il est beau. La beauté, l'intégrité de Dieu. Le travail bien fait. Dieu est amour et justice et nos relations au travail en tant que chrétiens s'en ressentiront dans notre regard vis-à-vis de l'autre, dans la façon dont nous traitons la personne d'une couleur de peau différente de la nôtre, dont nous traitons la personne d'un sexe différent du nôtre, dont nous traitons la personne qui n'a pas la même orientation sexuelle que nous. Moi, je me souviens toujours d'un ami homosexuel qui a passé des années de sa vie chrétienne à lutter pour vivre comme Dieu lui demandait de vivre. C'est comme ça qu'il décrivait ce qu'il faisait. Mais qui retombait régulièrement, qui retournait sur les lieux de drague, dans les aires d'autoroute, qui rechutait. C'est un gars qui s'était converti dans une église où un des anciens était cadre dans une grande entreprise française que nous connaissons tous et qui l'avait pistonné pour qu'il trouve un travail lorsqu'il s'était converti. Mais devant ce cadre d'entreprise était aussi un ancien dans l'église. Et devant les rechutes et les difficultés de vie chrétienne de ce jeune gars, eh bien, ce cadre a tout fait pour le brimer au travail, pour l'empêcher d'avancer, pour l'empêcher d'accéder à des choses auxquelles il avait droit, y compris à des postes aménagés lorsque sa séropositivité au VIH s'est déclarée et a gravement affecté sa santé. Et je me suis toujours dit, là, il y a une profonde contradiction entre la foi de cet homme. Lui, il voit la contradiction dans la foi du jeune homosexuel et pas en train de justifier quoi que ce soit. C'est un jeune gars qui luttait, qui se repentait, qui se remettait sur pattes. Voilà. Bon, il avait tout un parcours. Mais je dis, cet homme, avec une certaine prestance dans son église locale, on ne salarie pas quelqu'un pour ce qu'il fait au lit. On la salarie pour le travail, le rendement. Il y a là des enjeux d'éthique chrétienne, de justice, d'amour vis-à-vis de l'autre. Je vais m'arrêter là. Il nous reste juste ce petit. Comment donc appliquer une pensée chrétienne à l'activité professionnelle? Je vous laisserai méditer cette question. pense, pour moi, l'essentiel, c'est de s'attacher à lutter contre le faux et l'erreur. Il y a plein de domaines où, même en tant que chrétiens, nous sommes encore pénétrés par des idées qui sont à rectifier. Il nous faut les débusquer, sans nous prendre trop la tête à ce propos. Mais le travail peut prendre la place de Dieu. Le travail peut aussi être méprisé dans la perspective de beaucoup de chrétiens. Voilà. Est-ce que...